Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Suite de l'étude biblique du sermon sur la montagne. Thème, le vrai et le faux.
Matthieu chapitre 7, verset 13. On va commencer par là. Entrez par la porte étroite. Le verset 15 maintenant. Gardez-vous des faux prophètes. Le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Et puis le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, s'en rend semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, on l'a compris, il s'agit de quatre petites paraboles, quatre images. La première, je le rappelle, il s'agit de la porte étroite. La seconde, il est question d'un chemin étroit. La troisième allégorie que Jésus place devant nous, il s'agit des faux prophètes, et puis également, en ce qui concerne notre proposition, ce sont les illusions, et en quatrième position, ce sont les deux maisons. Voilà, on va faire le détail de cette méditation au fur et à mesure, je reviendrai sur les textes, et nous allons voir à partir de ces quatre images, quatre figures. On pourrait résumer tout simplement l'enseignement de la fausse porte, ou le faux chemin, si vous aimez mieux. Également les faux guides, on en reparlera. Les fausses professions de foi, ou la fausse sécurité. Voilà, on pourrait résumer cela de cette manière. La question que suggère cette vigoureuse dénonciation de l'erreur, parce que ce n'est pas autre chose que Jésus dénonce, pourrait être pour chacun la suivante. C'est une réflexion qui nous est renvoyée à chacun sous cet aspect. Suis-je réellement dans la bonne direction quand il s'agit de la porte ou du chemin? Deuxième point, est-ce que je suis dans la pensée du verbe suivre? Est-ce que je suis le Dieu de la Bible? Ou alors, est-ce que je suis des leaders humains, une idole, entre autres des faux prophètes, sans que je me sois aperçu qu'il s'agit de faux prophètes? Ou encore, suis-je réellement dans une authentique réalité de ma foi? Suis-je un véritable, véridicle croyant? Si je me donne à moi-même de faux raisonnements, ou sur quoi et comment je bâtis ma vie par rapport aux maisons, aux deux maisons dont nous avons parlé tout à l'heure, la maison, le roc ou le sable. L'apôtre Paul résume tout cela dans une écriture, et il dira ceci, il s'adresse à des chrétiens, il dit ceci, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Alors le meilleur moyen pour s'éprouver, c'est d'écouter la parole de Dieu. Le meilleur moyen, c'est de lire la Bible et d'être confronté avec ce que nous dit Dieu, ce que nous disent les hommes, ce que nous pouvons nous dire à nous-mêmes. Mais le plus important, vous l'avez remarqué, c'est ce que Dieu nous dit. Alors on va reprendre les choses et je vous renvoie au texte, premier texte que nous avons lu. On le lit simplement, où Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin » qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ceci concerne, d'une manière très claire, l'entrée dans le royaume de Dieu, entre parenthèses, ou entre autres, eh bien il s'agit du salut. Un choix de deux portes, seulement deux. La bonne, il nous est rappelé, la bonne, Jésus nous dit qu'elle est étroite, mais hélas, peu fréquentée. Elle conduit certainement au salut de Dieu. Il n'y a aucun doute à avoir sur la question. Surtout lorsque ce Jésus nous donne cette parabole et il nous dira plus tard dans un autre évangile, il nous encouragera et il nous dira « Mais je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Alors donc si Jésus nous dit qu'il est la porte et qu'il nous dit que cette porte qui est lui-même est étroite, c'est qu'il y a bien des raisons que nous allons voir maintenant. On comprend que tout se fait dans les paraboles de Jésus comparativement. Il y a une autre porte, et l'autre porte ne se cherche pas. Visiblement, tellement elle est grande, tellement elle est large, tellement elle est facile, et j'ajouterai ceci, tellement elle est naturelle. Il n'y a aucune question à se poser, les choses se font naturellement. C'est un chemin, nous dit Jésus, qui descend en pente douce vers la mort, puisqu'il est question de perdition, c'est-à-dire la perdition éternelle. Vous savez que la Bible nous dit que dans les illusions humaines, eh bien, il y a cette conception où dans, finalement, eh bien, l'Ancien Testament, il nous dira que la conception des hommes est quelquefois tellement aberrante, puisqu'il y a ce texte, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Il y a des gens qui pensent être dans le bon chemin, pousser la bonne porte, et finalement se trompent complètement et totalement. Porte ou chemin, puisqu'il est large et spacieux, tout est accepté. Tout est permis. C'est la vie de la plus large liberté, dans le bien comme dans le mal. On ne va même pas se poser de questions, on sait que de toute façon, eh bien, c'est inutile de se poser des questions. Et on peut y amener avec toi, avec soi, tout ce que l'on veut, c'est-à-dire nos défauts, nos péchés, nos sentiments, et pas les meilleurs, naturellement, et quelquefois, eh bien, nos pensées les plus déréglées. Dans ce chemin et dans cette porte spacieuse, tout passe, tout y passe. Et nous pourrions peut-être ajouter que le passeport de la bonne conscience, eh bien, n'est même pas requis à l'entrée. Tout simplement, aucune remise en cause n'est réclamée. C'est un passage très fréquenté, puisque Jésus nous dit, et il affirme, « Beaucoup y entrent par là ». Alors c'est vrai que ça soumet quand même quelques réflexions. Notons au passage que la première porte dont Jésus nous parle, celle qui est étroite, hein, cette porte est simplement le commencement d'un chemin. Il y a la porte d'abord, et ensuite il y a le chemin. C'est le début. Ce n'est que le commencement auquel il va falloir satisfaire certaines exigences, puisque Jésus nous dit que c'est resserré, étroit et resserré. Et faire le choix d'entrer par là, c'est prendre la bonne option, mais qui va coûter. On sait ce que c'est que la vie chrétienne. La vie chrétienne est certainement la plus glorieuse, la plus formidable de toutes les aventures, mais il y a un prix à payer. Non pas que le prix pour y rentrer, eh bien, c'est à nous de le payer, puisqu'il a déjà été payé, mais il y aura des devoirs et des obligations qui sont tout à fait normales, puisque dans d'autres passages, Jésus nous parle de renoncement. Il nous parle également de victoire sur le mal. Il nous parle de mort à nous-mêmes, de vie par la foi, d'existence ou de vie chrétienne dans le sens du progrès et puis aussi de sacrifice. L'invitation est des plus claires. Jésus nous dit « Entrez ». C'est une invitation qui est claire. « Entrez ». Lorsque nous arrivons chez quelqu'un et qu'on nous dit « Entrez », vous rentrez, tout simplement. Eh bien, dans le salut, c'est la même chose. Ce sont des choses qui sont simples. Mais nous voyons que, malheureusement, peu y répondent, parce que Jésus ajoute, tout simplement, qu'il y a malheureusement peu qui passent par là. Par un choix déterminé. Hein, par un choix déterminé. Et comme nous l'avons déjà dit, Jésus nous affirme qu'il est lui-même le chemin. Et ne pourrait-il pas nous rétorquer lorsqu'il affirme qu'il est la porte, nous l'avons vu, qu'il est le chemin, ne pourrait-il pas nous rétorquer lorsque nous sommes hésitants ou que nous sommes rébarbatifs à répondre à son appel? Eh bien, je suis pourtant le chemin, mais vous ne me suivez pas. Voilà, ça c'est le problème. Un chemin, c'est fait pour le poursuivre, pour le suivre, et il va nous mener quelque part, forcément. Et quand c'est le bon chemin, eh bien, il nous mènera au but. Ailleurs, Jésus nous dit « Je suis la vie, je suis la porte ». Je suis le chemin, je suis la vie. Ne pourrait-il pas dire aux hommes qui sont là en ayant entendu et bien compris qu'il est la vie, « Je suis la vie, mais vous ne me cherchez pas. » Ou si vous cherchez la vie, vous la cherchez d'une manière qui est complètement contraire à ce que, eh bien là, est-ce qu'elle est réellement. Alors que Dieu, que Jésus soit la porte, qu'il soit le chemin ou qu'il soit la vie, l'attitude de refus des hommes reste toujours la même. Et cette attitude, elle nous est consignée simplement par un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 39. Et il le dira particulièrement à ses contemporains, à ceux qui le connaissent. Il dira ceci, « Vous sondez les Écritures. » Et il y a bien des gens qui sondent les Écritures, qui essaient de percer les mystères de Dieu ou les mystères de la vie. Alors il leur dira, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. » Mais, quelque part, eh bien, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas avoir, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà. Donc, cette petite parabole de la porte étroite et du chemin étroit, resserré, eh bien, Jésus nous enseigne que il y a un vrai chemin, c'est lui, et qu'il y a un faux chemin qui nous amène dans toutes sortes d'égarements. La deuxième proposition, c'est celle qui suit au verset 15. Je lis. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Après avoir prévenu du faux chemin, Jésus met en garde contre les faux conducteurs, les faux guides, en d'autres termes, il les appellera les faux prophètes. Alors ça mérite explication naturellement, parce que Jésus sait de quoi il parle et il prévient pour que toute profession de foi ou tout engagement dans la foi, dans la vie chrétienne, dans une décision pour Jésus, doit être éclairé. Vous savez, Jésus a été honnête. Il est honnête avec les hommes. Il ne nous dit pas de le suivre aveuglément. Il nous donne les conditions. Il nous donne les devoirs et les obligations avec tout ce qu'il peut y avoir de prérogatives et de bénédictions. Donc, nous sommes en connaissance de cause. Alors, un faux prophète, un faux guide, un faux conducteur, entendez par là quelqu'un qui se présente comme un porte-parole de Dieu, parce que le nom de Dieu est dedans. Quelqu'un qui s'arroge un titre ou une fonction religieuse ou spirituelle au nom de Dieu, ses servants de Dieu. Et l'avertissement de Jésus est celui-ci, quand il est question des faux prophètes, gardez-vous, soyez attentifs, soyez prudents, soyez vigilants, ne prenez pas tout ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comme argent comptant. Ça, les choses sont dites par Jésus. Alors, la question qui vient, mais comment les reconnaître? À quel signe? Comment peut-on les reconnaître? Jésus poursuit. Il les présente de cette manière. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais sachez qu'en dedans, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des destructeurs, ce sont des utilisateurs, ce sont des manipulateurs. Voilà. On pourrait se dire que si le monde d'hier ou d'aujourd'hui avait pris en compte les conseils que Jésus nous donne, eh bien, le monde n'aurait jamais connu autant de confusion religieuse et de sectes qui se promènent de tous les côtés. Voilà. Mais il faut croire que les paroles de Jésus ont été oubliées, qu'elles ont été certainement abandonnées, parce que si véritablement les hommes se tenaient à ce que Jésus nous dit, ne serait-ce que dans ces petits textes, eh bien, la physionomie de notre monde serait certainement changée, et qu'il n'y aurait pas de gourou, il n'y aurait pas de charlatan qui passe par-ci, par-là, pour manipuler les gens, et je crois que ça changerait beaucoup de choses. La confusion religieuse ne serait pas au point où elle en est aujourd'hui, comme elle a toujours été. Alors, il dit ceci, « Mais ils viennent vers vous, ils se présentent à vous en vêtements de brebis. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Jésus nous met en garde contre certains hommes dont les apparences, on dira, la parure extérieure se manifeste ou prend les allures, tout simplement, ou la livrée, de l'humilité et de la douceur. Voilà, des gens qui viennent dans un premier temps et avec une attitude de douceur, affable, modeste. Et là, Jésus nous dit, voilà, c'est comme ça que vous les reconnaîtrez. Alors, je voudrais dire qu'il y a des vrais qui sont doux et qui sont humbles. Mais après, c'est la suite qui est intéressante. Par contre, les loups, ces hommes qui sont prêts à profiter sans scrupule de leurs victimes et de leur situation, où les victimes sont dans des situations de misère, ou d'infortune, ou de maladie, ou de toutes sortes de choses, ou préoccupés peut-être par l'au-delà, ou par de grandes questions tout simplement essentielles, qu'ils vont exploiter. Ça s'appelle dans la loi, ça s'appelle tout simplement abus de personnes vulnérables, que ce soit des jeunes, que ce soit des gens fragilisés par la vie, ou que ce soit des personnes âgées, peu importe. Voilà, ce sont des loups, ce sont des faux, ce sont des gens dangereux. Et vous devez vous en tenir aux critères que je vous ai donnés. Faites attention parce que derrière la peau de brebis, il y a des dents, il y a un cœur cruel, il y a un intéressement pour votre personne, pour votre argent, pour que l'on puisse dominer sur vous et faire de vous, tout simplement, des esclaves de ces gens-là. C'est une subtile imitation pour mieux tromper, et le grand problème qui existe dans notre monde, c'est que soit les hommes sont incrédules à la vérité de Dieu, et ils sont tellement crédules aux mensonges. C'est bien le gros problème. Voilà. Alors il y a un critère absolu qui nous est donné par Jésus. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus ne nous dit pas, c'est pas à leurs dons, ou à leurs talents, ou à leurs œuvres. C'est à leurs fruits. Et le fruit de quelqu'un est le résultat ou ce qu'il produit dans sa vie. Écoutez, la réflexion est pertinente. Tout bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est logique. Ce qui est bien engendre le bien, ce qui est mauvais engendre le mauvais. C'est clair, il n'y a rien de compliqué dans l'évangile. Rien de compliqué. Non à ce qu'il paraît, mais à ce qu'il est réellement. Parce que des gens, quelquefois, paraissent, mais ils ne sont pas. Vous connaissez l'adage, l'habit ne fait pas le moine. Hein? Voilà, on le connaît tout cela. À travers des œuvres qui semblent bonnes, mais qui sont mauvaises. À travers des personnalités qui semblent de bonnes personnalités, mais qui sont mauvaises. À travers des comportements, à travers des pensées, à travers des mentalités. Et surtout, en par-delà de ce qu'il est, mais ce qu'il dit. Parce qu'il y a quand même dans les faux prophètes, dans les faux guides, dans les manipulateurs de ce monde, il y a beaucoup de paroles, mais peu de concret, peu de bons fruits, c'est-à-dire à ce qu'il dit. Ça, c'est dangereux. Les imposteurs de tout acabit qui se disent lumière et vérité. Et vous savez, c'est ça, hein? C'est qu'ils connaissent mieux que les autres. Ils sont au-dessus des autres. Ils connaissent la Bible mieux que Dieu. Oh, c'est déjà pas mal, hein? Ça, c'est un coup de force, hein? Ils connaissent ceci, ils connaissent cela, etc., etc. Ils vous en mettent plein la vue. Et vous dites, mais alors? Ça, c'est quelque chose. Et ils peuvent avoir même des activités impressionnantes, et voire même miraculeuses. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Il y a des gens qui sont dotés de capacités de dons, mais dont la nature de ces dons, dont la nature de ces impressionnantes manifestations ne viennent pas de Dieu, mais est simplement une confrontation. C'est-à-dire que c'est, en quelque sorte, la contrefaçon de ce que Dieu fait. Mais attention, leurs faits et leurs gestes, leurs messages, leur travail, vu à la lumière de la parole de Dieu, les identifient comme des faux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter. C'est pour cela qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous donne de la perspicacité, du discernement. Nous sommes dans un monde dangereux. Et des faux prophètes, il y en a eu, mais des quantités extraordinaires. Il y en a encore aujourd'hui, qui en mettent plein la vue, qui c'est de la poudre de perlimpinpin qu'ils mettent. Et il y a des gens qui marchent. Crédules. On appelle ça, un terme populaire, excusez-moi, mais on appelle ça, tant dans le domaine commercial, tant dans le domaine des affaires, ou dans le domaine religieux, excusez-moi, on appelle ça des gogos. Ouais. Des gens qui se laissent manipuler, qui se laissent tromper. Et quand ils ouvrent les yeux, ben ça y est, ils sont dépouillés, il n'y a plus rien du tout. Le loup les a déchirés. Et c'est terrible. Jésus dit expressément, ne les suivez pas et ne les croyez pas dans un autre texte. Ouais, quand il parlera, il viendra des faux prophètes, des gens qui vous séduiront. Gardez-vous d'être séduits. Et ça, c'est important que nous gardions cela. Alors si le monde est prêt à suivre avec autant de naïveté, de candeur, on pourrait dire, les faux, pourquoi refuser de suivre le vrai ? La question, elle est là. Jésus est le vrai. Jésus nous dit les choses vraies. Jésus nous a fait la démonstration par sa parole, par sa vie même, qui est une vie de sainteté, qui est une vie de vérité, qui est une vie de lumière, qui est une vie, eh bien, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Alors, Jésus pourrait nous faire le même reproche que pour la porte et le chemin. Alors, si moi je suis la vérité, si je suis le vrai, si je vous donne le véritable chemin, alors pourquoi ne croyez pas ? Vous préférez encore croire à des faux. C'est terrible. Le Christ affirme « Je suis la lumière. Je suis la porte, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la lumière » et de conclure « Je suis la lumière et vous ne me voyez pas. » C'est parce qu'il y a quelque chose dans le cœur et dans les yeux des hommes. « Vous ne me croyez pas. Je suis la vérité. Force de constater par les faits de toujours que Jésus peut être la vérité et qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas en lui. Ils préfèrent croire encore à des choses de mensonges. Le troisième point vient ensuite, ce sont les fausses illusions. On a parlé du vrai chemin et du faux chemin, on a parlé de la vérité, des faux prophètes. Et maintenant, voilà les illusions. Je dis, hein, c'est un contresens, mais les illusions, c'est des fausses illusions. Illusions, tout simplement. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les illusions. Tout ce qu'il peut y avoir de fausseté dans l'illusion des hommes. L'illusion est toujours une erreur. On fonctionne avec des impressions. Ça, c'est clair. C'est un abus de l'imagination. Et c'est pourquoi c'est Jacques qui dira, mais je l'ai cité il y a quelques instants, finalement d'être très prudent, de ne pas tomber dans l'illusion de nos faux raisonnements. Quelquefois, nous avons des raisonnements, nous disons « mais oui, mais ça me semble bien, ça me semble juste », alors que, stigmatisé, quelquefois, eh bien, dans le fond du cœur des hommes, dans des directions qu'ils auront à prendre, dans des décisions qu'ils auront à faire, eh bien, des illusions, des raisonnements qui ne sont pas des vrais raisonnements, qui ne sont pas quelque chose dans la justice. Donc, c'est aller au-delà. Précédemment, Jésus avertit que certains peuvent être trompés par d'autres. Donc, entendez par là, les faux prophètes. Qu'on peut se tromper en poussant la mauvaise porte, en prenant à un carrefour, eh bien, le mauvais chemin. Mais Jésus va préciser quelque chose, mais il est question ici, dans le dernier texte que nous venons de lire, de ceux qui se trompent tout seuls. Porte ou pas porte, chemin ou pas chemin, faux prophète ou d'une manière ou d'une autre, ils se trompent eux-mêmes. Ils se font des idées, tout simplement, et ils se méprennent sur Dieu, et notamment sur leur croyance et leur vie. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », et je crois qu'il y a des millions et des millions de gens dans notre monde, sous quelque latitude que ce soit, dans quelque religion que ce soit, et même parfois, même parmi les chrétiens évangéliques, qui ont un mot, enfin deux, « Seigneur, Seigneur », le mot est continuellement dans leur bouche, et Jésus le stigmatise, le relève. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », écoutez, c'est choquant après, hein, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. C'est quand même curieux. Parce que pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est pas dire « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas d'avoir un vocabulaire, d'avoir une phraseologie avec le mot « Seigneur » continuellement. Et ça correspond à autre chose. Et il y a bien des gens qui se donnent l'illusion, ils se trompent eux-mêmes, hein, c'est pas les autres qui les trompent. Mais parce que ça devient même à la limite superstitieux. Ah oui, moi j'ai le Seigneur, vous savez, j'ai ma Bible sous le bras. Ça devient quelque part de malsain. C'est pas parce qu'on a une Bible, c'est pas parce qu'on a le mot Seigneur dans la bouche, c'est pas parce qu'on a une carte de membre d'une église, c'est pas parce qu'il y a ceci et cela et qu'on appartient à ceci ou cela, ça ne change rien. Et Jésus, justement, veut dénoncer cette illusion, cette dérive que les gens, dans lesquels ils se confortent, alors que c'est complètement faux. Alors je dis que ça sera un réveil douloureux, puisque ça sera quelque chose de difficile au jour de la réalité et de la mise en lumière. Mais Seigneur, est-ce que nous ne t'avons pas appelé Seigneur tous les jours de notre vie? Nous te l'avons dit, mais continuellement, si nous ne l'avons pas dit 200 fois par jour. Et Jésus aurait mieux fait, il pourrait peut-être leur répondre, tu me l'aurais dit qu'une fois, mais une vraie fois, dans la foi et dans l'obéissance, ça aurait suffi. C'est pas la répétition. Ce n'est pas des vaines redites. Ce n'est pas la multiplication des paroles qui nous sauve. On peut avoir le nom de Jésus dans la bouche sans pour autant faire ce qu'il demande et attend de nous. Parce qu'il nous est ajouté à celui-là seul qui rentrera dans le royaume de mon Père, dans le royaume de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas ceci ou cela. Le critère retenu, c'est faire la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Celui qui emprunte une mauvaise porte ou le mauvais chemin suit sa propre volonté. S'il connaît la bonne et qu'il en prend une autre, s'il connaît le chemin et qu'il en prend une autre, s'il connaît la vérité et qu'il suit des charlatans ou des faux prophètes, mais d'une manière ou d'une autre, c'est que même dans le cas qui nous intéresse, dans la troisième image que nous avons devant nous, c'est toujours la même chose qui se pose. C'est faire notre propre volonté. Celui qui se laisse séduire par les faux prophètes s'incline à faire leur volonté, c'est plus seulement la sienne, mais la volonté humaine de ces hommes qui les trompent, mais qui prend encore la peine de lire la Bible, expression permanente de la volonté de Dieu pour y trouver tout ce dont il a besoin pour pousser la bonne porte, suivre le bon chemin, ne pas courir de droite et de gauche à courir après n'importe qui et à écouter n'importe quoi. Et puis, de ne pas se tromper soi-même par de faux raisonnements en disant « Puisque moi j'ai le nom du Seigneur dans la bouche, je suis forcément sauvé. » Tout ça, c'est nul et non avenu. Qui prend connaissance de cette parole, qui la serre dans son cœur, en d'autres termes, qui la croit et qui la vit quotidiennement, alors celui-là fait la volonté de celui qui est dans le ciel. Le monde a tout fait pour substituer la volonté de Dieu à toutes sortes de religions, toutes sortes de traditions, de rites et de sacrements, tout un train de choses, et qui fait croire aux gens que parce qu'ils rentrent dans cette condition, parce que c'est la tradition, parce qu'il faut faire comme tout le monde, et ne pas faire la volonté de Dieu, eh bien qu'ils s'imaginent finalement qu'ils seront sauvés, sauf de croire et d'obéir simplement. Parce que notre salut, il repose sur notre foi et puis notre obéissance, toute simple. On ne cherche pas midi à 14 heures, comme l'on dit. Alors, au jugement, les hommes invoqueront ces mêmes excuses. Mais Seigneur, nous t'avons dit, combien de fois, Seigneur, Seigneur, et tu nous dis maintenant que nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu? Alors permets-nous de te rappeler, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? La prophétie, l'inspiration d'une pensée de Dieu, faut-elle qu'elle soit vraiment inspirée et que ce soit Dieu encore qui parle? Bon, première chose, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons chassé les démons. Mais vous savez que les occultistes, les magiciens et tous ces gens qui travaillent avec le monde des ténèbres, mais ils prophétisent, mais également ils chassent des démons. Ils rentrent dans ce trafic des choses impures. Mais n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ben voilà. Ça, c'est l'autre phase, c'est l'autre monde, c'est l'autre côté du spirituel, mais pas le spirituel divin, le spirituel malin. Et Jésus de répondre tout simplement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Ce n'est pas de prophétiser qui est important, ce n'est pas d'être exorciste, c'est-à-dire de chasser les démons au nom de Jésus qui est important, ou au nom de qui vous voulez, parce que quand on arrive à ce point-là, c'est qu'on est capable de les chasser par n'importe quel autre nom, hein, et surtout le nom mauvais. Et ce n'est pas parce qu'on a fait des miracles, non, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tout simplement, il n'y a pas autre chose. Alors les arguments, mais n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? On pourra avoir la meilleure consécration, on pourra avoir assisté à toutes les réunions, tous les rassemblements et tout ce qui peut s'offrir dans les activités spirituelles d'une église. Si véritablement notre cœur est ailleurs, ce n'est pas la peine. Alors on aura toujours l'apparence, on aura toujours finalement là les choses à l'extérieur, mais ça ne sert à rien. Je vais vous donner un exemple, Judas en est véritablement le type même. Parce que quand même, quand on voit Judas, il était dans la compagnie de Jésus, il a vu, il a entendu, il a accompli, il a vu des choses extraordinaires, Judas. Plus que vous et moi, et peut-être bien d'autres qui ont vécu dans ce temps-là, pourtant, il a renié, il a trahi. Il a joué la comédie, tout simplement, pour être dans la présence de Jésus, en espérant que Jésus ferait pour lui, ou ferait peut-être pour le monde, qu'il s'imaginait, lui, être comme cela. Eh bien, mais Jésus, ça n'a pas été ça, pas du tout. Et dans sa déception, dans sa dépression, Judas, il a mis un terme à sa vie. Il a fait l'acte fatal qu'il ne fallait pas faire. Pourquoi? Parce qu'il a refusé tout simplement de croire. Il n'a pas cru au pardon de Dieu. La foi est l'obéissance élémentaire et de commencer à nous repentir de nos péchés et de changer de vie. Judas n'a pas su faire. Ceux qui disent, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas chassé des démons? Ils ont oublié l'élémentaire qui est de se repentir, de se convertir et de vivre une vie nouvelle et de demander à Dieu qu'il mette en eux une vie nouvelle. Oui. Seigneur, Seigneur, c'est un nom sacré. Et faisons attention, parce que nous ne sommes pas au-delà des autres. Vous savez que dans la Bible, il nous est dit, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Et mettre le nom de Dieu, excusez-moi l'expression, mais à toutes les recettes et à toutes les sauces, s'il n'y a pas le cœur qui suit, ça ne sert à rien. D'ailleurs, on le met dans ce que l'on veut, parce que les jurons et les paroles injurieuses, eh ben, c'est aussi prendre Dieu pour rien, quoi qu'il en soit. Encore une fois, Jésus peut nous dire, je suis votre chef et vous ne m'obéissez pas. Vous ne m'obéissez pas, je suis votre Dieu et vous ne me priez pas. Et j'ajoute de tout votre cœur, parce qu'il y a des gens qui prient, mais le cœur est complètement absent. Seigneur, Seigneur. On en arrive à la fin, quatrième image, c'est la fausse sécurité. Le faux chemin, la fausse porte, les faux prophètes, les fausses pensées, les faux raisonnements, les illusions. Et maintenant, la fausse sécurité, il y a deux façons de construire sa vie. Avec ou sans Dieu, sur le roc ou sur le sable, on le lit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Le choix avec ou sans Dieu, le choix sur le sable ou sur le roc. Jésus attire notre attention et nous dit que chacun a l'entière liberté de bâtir son existence comme il l'entend. Moi, je suis convaincu et je le prêche, c'est que Dieu nous a fait des êtres libres. Dieu n'est pas un tyran, un dictateur. Il nous a donné le souffle de la vie, nous a lancé dans la carrière de l'existence et nous faisons de notre vie ce que nous voulons. Avec des fortunes différentes et incertaines, enfin, il y a de multiples, finalement, résultats au choix de notre vie. Mais nous sommes libres. Ce qui nous laisse entendre que les manières et les façons, les promoteurs, oui, on dira ça comme ça, sont nombreux. Toutefois, l'Évangile nous indique la manière adéquate, la manière sage, la manière prudente pour une construction vraiment durable. Quand les hommes font quelque chose, si ce sont des gens sensés, intelligents et réfléchis, ce que nous faisons, nous essayons de le faire d'une manière cohérente, qu'il y ait de la qualité et que ce soit durable, que ça puisse durer. On est dans une société aujourd'hui, c'est la consommation effrénée. On prend une chose, on la jette parce que demain sera remplacé par autre chose. Oui, c'est ça. Hein. On est beaucoup plus dans l'option de la consommation et du jetage que dans des choses qui se maintiennent et qui restent et qui durent. Voilà, c'est comme ça. Le jour viendra où, malgré l'ornementation, je choisis, hein, l'ornementation et les embellissements recherchés par le fait de la culture, de la philosophie, du savoir, de l'expérience, de la distinction, etc., etc., la solidité ou la fragilité de notre vie personnelle sera révélée au travers l'épreuve. On peut bien avoir un vernis de connaissances, un vernis de culture, un vernis de civilisation ou de civilité, et puis finalement rester à l'intérieur complètement inchangé. Donc tout ça, ce sont des choses extérieures, et c'est ce que le monde nous présente. Mais ce que nous devons savoir, et ce que Jésus veut marquer, c'est que tout cela, à un moment ou à un autre de notre vie, passera par le feu. Et vous savez que le feu, ça épure, ça nettoie, ça transforme. Et il est parlé de l'épreuve sous la forme d'intempéries et autres tempêtes qui fondent sans prévenir. On l'a vu dans les catastrophes naturelles de ces derniers mois. On le voit également se réaliser dans des vies humaines, alors que tout semble aller très bien. À un moment donné, il y a un accident, une maladie qui survient, une séparation et tant d'autres choses dramatiques. Et l'on voit à ce moment-là où en sont les gens, malheureusement. Il y en a beaucoup qui tombent dans le désespoir, dans le découragement et qui disent « c'est terminé, c'est fini ». Il y en a d'autres qui vont se révolter et qui vont maudire Dieu. Puis il y en a d'autres qui vont véritablement saisir l'affliction pour aller plus loin, pour transformer, entendez par là, le mal en bien. Transformer le mauvais en bon. Il y a Dieu qui peut le faire. Hein. Ça, ce n'est pas des recettes. Hein. Ce n'est pas des choses qui appartiennent à l'homme. Mais tout dépend comment nous allons réagir. Si nous sommes sur du roc, ça ne bougera pas. Si nous sommes sur du sable, nous allons nous enfoncer. Tout dépend comment nous voyons les choses. Au verset 26, il nous est dit, mais quiconque entend les paroles, entend ces paroles. Jésus précise, entend mes paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé. Voilà, tout simplement. Un fou, quelqu'un qui veut aller vite. Quelqu'un qui agit avec précipitation, qui se dit « bientôt je vais avoir ma maison, il faut qu'elle soit faite en 2 jours ». Très bien. Il y a tous les matériaux aujourd'hui pour la faire en 2 jours. Maintenant, prenez quand même un parapluie. Hein, et une bonne assurance. Voilà. L'homme est insensé. Il veut aller vite, il veut avoir le plus de choses possibles, et il s'est dit « le meilleur terrain, eh bien, c'est de le mettre sur du sable ». C'est vrai que si nous allons sur la plage à Saint-Nazaire, c'est pas trop difficile, hein, vous allez voir, ça se creuse tout seul. Ça s'effondre aussi très rapidement. Hein. Mais si vous n'avez pas respecté les horreurs de la marée et que vous êtes mis près du rivage, vous allez voir, vous allez avoir l'eau courante chez vous. Hein. Très vite, très rapidement. Hein. La pluie est venue, les torrents ont débordé, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison et elle est tombée, sa ruine était grande. Fausse sécurité, nous dit Jésus. Illusion de solidité. Et il n'y aura pas de durée. Sécurité illusoire. Si tel est notre cas, que restera-t-il de notre vie? Dieu nous a donné un capital formidable. C'est notre vie. Ouais. Alors on ne connaît pas la durée de notre vie. Mais peu importe la durée, c'est à nous de savoir bien compter nos jours, comme le dit Moïse dans le psaume 90. Apprends-moi, Seigneur, à bien compter mes jours, à appliquer mon cœur à la sagesse. Alors, que reste-t-il de notre vie? On voit malheureusement autour de nous des gens qui étaient peut-être promis à des beaux avenirs et qui ont tout gâché. Oui, avec des substances qui ne sont pas faites pour le corps humain, à travers des vies où l'hygiène, tout simplement, n'était pas là, l'hygiène de la vie, je veux dire, hein, manger, dormir sainement, normalement, mais qui ont, comme on dit, consommé, allumé la chandelle, qui ont, consommé la chandelle par les deux bouts. Et quand ça arrive au milieu, il n'y a plus rien du tout. Hein. C'est terrible. Hein. Et quelquefois de jeunes existences, de belles existences. Eh oui, que va-t-il rester? Jésus nous parle de vide et de ruine, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous aura appris ce passage, finalement, sur cette terre? C'est ce que Jésus dira, suggérera un peu plus tard dans un autre texte, quand il dira, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà la question. Elle est très simple. Je peux avoir eu les plus grandes réussites dans mon existence. Je peux m'appeler Elizabeth Taylor. Vous savez pourquoi je dis ça? Je peux m'appeler Monsieur Kadhafi, ou je peux m'appeler Napoléon, ou Louis XIV, et tout ce que vous voudrez. Je peux avoir réussi un empire financier, et puis avoir construit quelque chose qui fait l'admiration de tous ceux qui m'ont vu vivre. Mais si à côté de ça, l'essentiel n'y est pas, si ma vie n'est pas attachée à ce qui est primordial, à ce qui devrait toujours avoir la prééminence, si je me suis fourvoyé entre les moyens de l'existence et les buts de l'existence, comme ce cultivateur de la parabole que Jésus nous raconte dans l'évangile de Luc au chapitre 13, qui avait construit ses greniers, etc., etc., et au dernier moment, la voix de Dieu lui dit, mais cette nuit même ton âme se sera redemandée. Alors, pour qui sera-ce, finalement, tout ce que tu as construit? Ça s'en va comme un fétu de paille. Alors, qu'est-ce que va nous apprendre la vie? L'homme a davantage, l'âme est davantage qu'un corps. Il est davantage qu'une âme. L'homme est un esprit. Une âme et un esprit. Et c'est toute la Bible qui nous le dit. Toute la Bible qui nous le rappelle. Pour nous dire, mais sur quoi es-tu en train de construire? Tu ne construis que sur ton corps. On n'a jamais fait autant d'états de notre corps aujourd'hui. Le corps, il est partout, hein. Les gens ne pensent même pas qu'un jour ils vont mourir. Et ils l'entretiennent, ils font ceci, ils font cela. Je ne dis pas qu'il ne faille pas entretenir, hein, c'est normal. Hein, il y a des choses qui sont tout à fait normales. Mais quand on voit les soins, quand on voit l'argent qui peut être dépensé pour ceci, pour cela, etc., etc., ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon argent. Hein. Moi, ça ne m'enrichit pas et ça ne m'appauvrit pas. Mais quand je vois que, faut voir un petit peu pour la beauté, ce que les gens sont en train de se faire avec les chirurgies pour non pas se refaire, mais se défaire. On se dit, mais Seigneur, tôt ou tard, ça va nous rattraper tout ça. Hein. Vaut mieux rester à l'état naturel, qu'est-ce que vous en pensez? S'entretenir normalement. Vous savez, les rides, hein, elles arriveront un jour ou l'autre. Hein. Souriez, vous allez conserver un visage souple. Mais les gens qui ne sourient pas, ce sont des gens malheureux. C'est là où ils vont avoir des rides. Hein. Comment cela, vous savez? Oui. Ah oui, mais c'est des petites choses, vous savez, sont importantes. C'est important. Donc, pourquoi cela? Quelle réflexion suggère cela? Cette absence ou cet oubli de notre dimension d'âme et d'esprit? Toujours est-il que le négligent, l'inconséquent, l'indifférent, le moqueur, l'incrédule n'aura aucune raison de se plaindre de sa propre ruine. Oui. aucune raison de se plaindre. Il nous est dit à un moment donné, la pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée, sa ruine a été grande. Et c'est lorsque nous arriverons dans la lumière, lorsque nous arriverons face à la vérité de Dieu, dans son royaume des cieux, que là nous dirons, mais quelle vanité tout ça. Ah oui, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, vanité et vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Ouais. Attachons-nous à l'essentiel, attachons-nous au primordial. Donnons véritablement le sens que doit avoir notre vie. J'entendais simplement, il paraît que ça va être le plus gros tirage de l'Euro Million. Il y a je ne sais pas combien. Alors la publicité c'était celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez entendue. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Alors il y a des journalistes qui ont dit, vous pouvez faire ceci, tout ça. Et les gens, ils fantasment avec ça. Comme si c'était le bonheur. Et les gens, on leur présente, mais c'est le bonheur. Si vous gagnez, vous allez voir, vous allez être heureux. Ça va être formidable, c'est extraordinaire. Ça serait peut-être embarrassant de gagner. Mais c'est pour dire qu'on amorche les gens. On leur dit, voilà le bonheur. Voilà ce que c'est que le bonheur. Alors que le bonheur, c'est tout autre chose. Oui, souvent, beaucoup de gens qui ont eu le toit qui leur est tombé sur la tête, enfin ce toit-là, des gains faramineux, se sont retrouvés quelquefois dans une situation profondément, matériellement non, mais pour le reste, des divisions de la famille, les séparations, les divorces, et puis la jalousie, et la convoitise, et les voleurs, et puis les banquiers qui vous trompent, et ceci et cela, et puis vous faites arnaquer de tous les côtés. C'est terrible, c'est ça le bonheur. Et quand vous avez de l'argent, vous pouvez tout vous permettre. Et quelquefois, en vous permettant tout, eh bien, vous allez directement ce que vous n'aimeriez pas aller, c'est-à-dire vers la mort, tout simplement. Alors, ce sont des considérations. Jésus pourtant nous dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Attention, vous marchez sur le sable ou vous marchez sur le roc? Vous construisez sur le roc ou vous construisez sur le sable? Je termine. En substance de tout ce message que nous avons vu ce soir, je rappelle, ce sont les déclarations même que Jésus a tenues de sa propre bouche aux hommes. Il dit, je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Je suis le chemin et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me cherchez même pas. Je suis votre chef et votre Seigneur et vous ne m'obéissez pas. Je suis votre Dieu et vous ne m'adorez pas. Et si maintenant vous êtes malheureux, eh bien, ne me le reprochez pas. Je vous ai tout annoncé d'avance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous sommes dans un monde où les hommes se plaignent, où les hommes crient, où les hommes manifestent, où les hommes, Seigneur, font part de leur mécontentement. Oui, Seigneur, ça c'est une réalité qui nous est rapportée, Seigneur, au quotidien. Mais, Seigneur, nous te demandons de bien vouloir, Père éternel, donner, Seigneur, toute la connaissance de cette parole qui nous montre où sont, Seigneur, les vraies valeurs, les vrais fondements, les bases pour que nous puissions, Seigneur, entrer par la bonne porte, suivre le bon chemin, Seigneur, en nous détournant, Seigneur, de ceux qui, derrière des apparences avenantes, sont des faux prophètes, des menteurs, ou encore, Seigneur, des fausses illusions ou des illusions que nous pouvons avoir, des raisonnements, Seigneur, que nous pouvons tenir à nous-mêmes et qui nous trompent, qui nous induisent en erreur, ou encore, Seigneur, de nous souvenir que si nous construisons sur du roc, eh bien, Seigneur, notre vie tiendra debout. Et si nous construisons sur du sable, eh bien, nous serons enlevés, Seigneur, et nous savons, Père éternel, qu'il ne subsistera rien de notre existence. Seigneur, ce sont des paroles toutes simples, Seigneur, ce soir. Mais tu nous rappelles que toi, tu as dit. Toi, tu as parlé. Tu nous as montré l'exemple que ce que tu as dit, tu l'as vécu. Et tu veux nous montrer que si nous écoutons ce que tu nous dis, si nous obéissons, si nous y croyons et que nous vivons ce que tu nous dis, eh bien, Seigneur, notre vie, véritablement, Seigneur, héritera de ta grâce, de ton salut et de la vie éternelle. Tu nous bénis, Seigneur, et tu nous aides, Seigneur, à ne pas peut-être tant nous plaindre, mais de plutôt considérer, Seigneur, qu'il y a en effet une vraie vie. Et cette vraie vie, elle est offerte à tous. Elle est offerte gratuitement. Elle est offerte simplement. Il suffit tout simplement de nous approcher de toi et de tenir compte de ce que tu nous annonces. Et tu nous as parlé, Seigneur, encore par des paraboles toutes simples ce soir, que cela soit accessible à la compréhension et à la réflexion de chacun. Et nous voulons te remercier. Je te demande que tu bénisses ceux et celles qui entendent ou qui entendront ta parole, afin qu'elle trouve un écho dans nos cœurs et dans nos consciences, et que nous puissions te dire, eh bien Seigneur, j'ai choisi de te suivre, j'ai choisi de t'obéir, j'ai choisi de vivre de ta vie, et nous te remercions et nous te bénissons. Merci parce que c'est toi qui sauves encore les hommes aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Amen.